Vous écoutez, on lit pour vous.
La réalité virtuelle pour vaincre ses phobies. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 21 septembre 2024 dans la presse. La peur de l'avion vous empêche de voyager? La réalité virtuelle pourrait vous aider. L'Institut Hallan Memorial à Montréal offre désormais un programme immersif à tous ses patients susceptibles d'en bénéficier. Myriam, prénom fictif modifié par souci de confidentialité, l'a essayé, adopté et fera son premier voyage en avion prochainement. Myriam souffre d'agoraphobie depuis le début de la vingtaine. L'idée de se retrouver dans un lieu sans pouvoir s'échapper, comme un train, un tunnel ou un gratte-ciel, la tétanisait. Si j'étais sur l'autoroute à l'arrêt, je me sentais prisonnière. C'était devenu compliqué à vivre, raconte-t-elle. Elle a fait 2 ans de thérapie pendant la pandémie qui lui ont permis de traiter plusieurs de ses phobies. Le gros morceau qui restait, dit-elle, celui qui avait le plus d'impact sur ma vie, c'était l'avion. Juste être près d'un aéroport, ça me rendait nerveuse. Myriam est l'une des premières patientes de l'Institut Hallan Memorial du Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, à avoir suivi une thérapie d'exposition par réalité virtuelle pour surmonter sa phobie. L'idée n'est pas nouvelle. Dans la dernière décennie, de nombreux chercheurs ont exploré les avantages de la thérapie par réalité virtuelle. Or, le CUSUM est l'un des premiers centres à intégrer cette thérapie à son offre de soins pour tous leurs patients susceptibles d'en bénéficier. On peut l'offrir pour 12 séances à n'importe quel patient sur notre liste d'attente, dit Jean-Philippe Gagné, psychologue de l'unité de thérapie cognitivo-comportementale, TCC, du CUSUM et professeur du département de psychiatrie de l'Université McGill. Une subvention de Santé Canada leur a permis de mener à terme le projet. Des mises en scène déstabilisantes. Pour surmonter ces peurs irrationnelles, l'exposition à ces phobies est une méthode de traitement psychologique efficace. Mais prendre l'avion, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire toutes les semaines pour s'exercer, dit M. Gagné. Myriam a ainsi commencé la thérapie par réalité virtuelle. J'ai trouvé agréable de me dire que je n'avais pas besoin de me déplacer à l'aéroport et je savais que si j'avais une panique, que je pleurais, je pouvais enlever le casque et mon thérapeute était là, explique la jeune femme. Lorsqu'elle enfile le casque de réalité virtuelle, une multitude de scènes peuvent défiler devant ses yeux. Le taxi en route vers l'aéroport, l'embarquement, le passage dans la passerelle aéroportuaire, le décollage, les mondes immersifs ont été créés par la plateforme X-Air Health. La première fois que je suis entré dans le tunnel pour me rendre à l'avion, j'ai pleuré parce que j'étais nerveuse. À force de le faire, c'était de moins en moins lourd, dit Myriam. L'exposition se fait de façon graduelle. L'intensité augmente au fil des séances, généralement prévues chaque semaine pendant 3 mois. Dans la plateforme, on peut jouer avec les variables, donc il peut y avoir plein de monde dans l'avion, ça peut être le jour ou le soir, il peut y avoir une tempête, détaille M. Gagné. Les patients peuvent également se lancer des défis. J'ai testé différents sièges. Au début, j'étais dans le milieu, ensuite je me suis mise sur le bord de la fenêtre, dit Myriam. Tout récemment, je me suis mise au bord de l'allée. Le thérapeute a la possibilité d'ajouter des commentaires des voisins à bord de l'avion, suggérant qu'il va s'écraser dans le but de recréer diverses situations stressantes. Au début, c'était vraiment déstabilisant, dit-elle. J'étais fâchée après les gens. On est vraiment dans la scène, on oublie donc presque l'extérieur. Affronter ses phobies. Le programme, qui a débuté en 2023, est ouvert à tous les adultes de 18 ans et plus. Le psychologue se réjouit de constater la motivation des participants. Les personnes ont été très courageuses, dit-il. Aucun patient n'a retiré le casque pendant l'intervention. Les patients montrent généralement des progrès notables dès les premières semaines. On voit que l'hésitation du début et les grandes réactions anxiogènes diminuent après quelques séances, dit M. Gagné. Ça a été particulièrement le cas pour Myriam. J'ai quasiment le goût de me rendre à l'aéroport maintenant, dit Myriam. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire avant la réalité virtuelle. Une fois les 12 séances terminées, le psychologue encourage les patients à affronter leur phobie dans la vie réelle afin de consolider leurs acquis. C'est pour ça que, pendant la pandémie, on a vu des phobies des avions revenir parce que les personnes ne pouvaient pas voyager, explique M. Gagné. Myriam souhaite désormais affronter sa peur. Elle a demandé son passeport, une tâche qu'elle avait évitée pendant près de 10 ans. « J'étais toute fière de l'avoir en main », s'exclame-t-elle. « Dans les prochains mois, elle prévoit se rendre aux États-Unis avec son ami en avion. » Les phobies spécifiques pouvant être ciblées avec le programme de réalité virtuelle de l'Institut Allen Memorial. Avion, hauteur, prise de sang, araignée, cafard, chien, pigeon, chat, conduite automobile, ascenseur, métro, obscurité, tempête, examen, agoraphobie, espace restreint. C'était « La réalité virtuelle pour vaincre ses phobies », un texte d'Alice Girard-Bossé paru le 21 septembre 2024 dans La Presse.
Quand les jeunes guident les anciens. Un texte de Maude Goyer, paru le 10 septembre 2024 dans La Presse. Bien qu'il ne soit pas nouveau, le mentorat inversé, une pratique organisationnelle permettant à de jeunes employés moins expérimentés de mentorer leurs collègues plus âgés, gagne en popularité. En devenant plus structuré et plus officiel, il établit des ponts, favorise la cohésion et accroît le sentiment d'appartenance. C'est Jack Welch qui a braqué les projecteurs sur cette pratique au tournant du millénaire. Les avancées prodigieuses de l'Internet avaient poussé le grand patron de General Electric à demander à 500 cadres supérieurs d'être accompagnés par de plus jeunes employés plus habile avec le virage numérique. Depuis, le mentorat inversé a fait des petits. On en voit de plus en plus, dit Marie-Ève Roberge, présidente de Mentorat Québec. Il est plus formel et plus installé, et je pense que les ressources humaines ont plus d'informations et de documentation à ce sujet. Elle rappelle à quel point le mentorat, qu'il soit traditionnel ou inversé, a longtemps été tabou. Il était perçu comme un privilège ou une sorte de secret, liant deux individus. Cela tend à changer, souligne-t-elle. Il y a de plus en plus de programmes formels de mentorat. Confiance et formation. Pour Sébastien Héroux, directeur des ressources humaines à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, le mentorat inversé doit absolument se développer dans un climat de confiance et d'ouverture d'esprit. Il y a toute la question de l'ego et de la vulnérabilité qui sont en jeu, dit-il. Il faut que le mentoré, dans ce cas-ci quelqu'un de plus âgé avec plus d'expérience, soit prêt à recevoir les connaissances de son mentor. Ce n'est pas une posture traditionnelle. Cette posture doit justement être adoptée par la direction, indique M. Héroux, afin de donner le pas au reste de l'organisation. Une bonne préparation des employés, incluant la communication des objectifs, des rôles et responsabilités de chacun est aussi crucial pour que le mentorat inversé fonctionne. Un court programme de formation ou un manuel de directives serait utile, dit Mostafa Ayoubzadeh, professeur adjoint au département d'organisation et ressources humaines à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Un programme de mentorat inversé structuré peut aussi inclure des séances de suivi régulières. Une question de chimie. Autre point essentiel au bon fonctionnement de cette pratique, le respect mutuel des parties ainsi qu'une communication ouverte et transparente, ajoute M. Ayoubzadeh. La distance hiérarchique peut aussi être un obstacle. Le mentor plus jeune ne peut être mis en duo avec un mentoré plus âgé qui serait son supérieur immédiat, par exemple. Un mentor n'est ni un coach, ni un parrain, ni un patron, précise Marie-Ève Roberge de Mentorat Québec. Il doit y avoir un sentiment de liberté dans l'échange. Peu importe qu'il soit inversé ou traditionnel, le mentorat est toujours une relation d'échange et de partage, expose Étienne Saint-Jean, directeur de l'Institut de recherche sur les PME à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a toujours un transfert de connaissances et des apprentissages, et ça se passe des deux côtés, dit-il. L'important, c'est le fit entre les deux personnes. Elles doivent avoir des similitudes dans leurs valeurs, leurs intérêts. Il doit y avoir une chimie. Et pour cela, un mot d'ordre. Le mentorat inversé ne peut être imposé, note M. Saint-Jean. Aussi, il doit se baser, en premier lieu, sur les compétences de la personne. Il ne faut pas croire que l'âge fait foi de tout, glisse-t-il. Le bagage de compétences, la volonté et la chimie doivent être là, peu importe que ce soit un mentorat traditionnel ou inversé. Des résultats probants. Dans le mentorat inversé, les mentors se sentent valorisés et inclus. Leur sentiment d'appartenance se développe ainsi plus rapidement. Le plus jeune employé va s'intégrer plus vite et plus facilement, affirme Mme Roberge, et cela aide à bâtir une culture d'entreprise plus forte. Le taux de rétention augmente aussi. Et tout ça, c'est gratuit. C'est vraiment une formule gagnante pour tout le monde. Le professeur adjoint, Mostafa Ayoubzadeh, parle, quant à lui, de l'important effet d'inclusion du mentorat inversé. Cette relation favorise un environnement d'inclusivité et de compréhension mutuelle, souligne-t-il. Elle permet de combler les écarts générationnels au sein des organisations. Selon le professeur d'entrepreneuriat Étienne Saint-Jean, cette inclusion aide même à briser le plafond de verre. Lorsque le mentorat inversé est officialisé, il minimise l'effet « boys club », souligne-t-il. On constate que les femmes et les personnes racisées sont moins souvent nommées comme mentors. Les hommes ont tendance à mentorer d'autres hommes, aux profils similaires, dans lesquels ils se retrouvent. Or, le mentorat inversé peut renverser ces dynamiques de pouvoir et permettre à des gens de prendre leur place en entreprise. C'était « Quand les jeunes guident les anciens », un texte de Maude Goyer, paru le 10 septembre 2024 dans La Presse.
Du plastique dans l'asphalte, un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 septembre 2024 dans La Presse. Question d'un lecteur, Daniel Véronneau. Y a-t-il des tests qui pourraient être menés pour introduire dans l'asphalte une certaine proportion de plastique? Il y a beaucoup de travaux prometteurs sur le sujet. Tellement qu'il devrait y avoir du plastique dans l'asphalte d'ici quelques années. En entrevue, Alan Carter, ingénieur spécialiste de l'asphalte à l'École de technologie supérieure ETS, souligne qu'un peu partout sur la planète, des ingénieurs évaluent actuellement l'ajout de plastique à l'enrobé, aussi appelé bitume ou asphalte, pour aider à enrayer la pollution plastique. Il reste encore des choses à vérifier, mais c'est prometteur. L'asphalte avec plastique sera opérationnel d'ici quelques années, mais comme changer les pratiques industrielles et les appels d'offres gouvernementaux prend du temps, M. Carter pense qu'il faudra une décennie pour voir les premiers réasphaltages de ce genre. Selon M. Carter, l'ajout de plastique à l'asphalte pourrait utiliser la totalité des plastiques de certaines catégories qui sont envoyés dans les sites d'enfouissement au Canada. Cet asphalte comporterait moins de 3 % de plastique en poids. Quel problème reste-t-il à régler? Selon M. Carter, l'ajout de plastique produit de l'enrobé, asphalte, de très grande qualité quand il fait chaud, mais nuit un peu à basse température. Il faut voir la proportion maximale de plastique pour nos conditions hivernales. Autre point qui font encore l'objet de recherches, la possibilité que des microplastiques s'échappent de l'asphalte, la possibilité de réutiliser le mélange plastique-asphalte, comme on le fait actuellement pour l'asphalte, et l'impact sur l'asphalte du durcissement du plastique avec les années, lequel le rend plus fragile. Les résultats préliminaires sur ces points, notamment à l'ETS, sont encourageants, signale M. Carter. Ces travaux découlent d'une demande des autorités de la Gaspésie qui sont responsables du recyclage du plastique pour une région plus large. Le facteur température. On ne peut pas mélanger tous les plastiques parce qu'ils fondent à des températures différentes. Certains fondent à 100 degrés Celsius, alors que d'autres sont encore rigides à 200 degrés, explique M. Carter. Si on chauffe certains plastiques un peu trop, ils peuvent brûler. Et l'asphalte ne doit pas être chauffé à plus de 170 degrés parce qu'il peut s'endommager. Certains plastiques, par exemple les bouteilles de boissons gazeuses, sont faciles à recycler. On cible surtout les plastiques souples, comme les sacs à usage unique ou les sacs en textile plastique. Le plastique a aussi tendance à se séparer du reste de l'asphalte, ce qui complique la donne. Pour éliminer ce problème, des chercheurs de l'Institut de technologie du Nord de l'Alberta, NIT, mise sur une cire fabriquée à partir de plastique par une entreprise ontarienne, Greenland Plast. Ça semble améliorer beaucoup la stabilité par toutes les températures, explique Adetoisi Oyedun de NIT. Greenland Plast utilise déjà sa cire plastique pour fabriquer des tuiles de bardeaux pour les toitures. Le modèle australien, le leader mondial de l'incorporation du plastique dans l'asphalte, est l'Australie, indique M. Carter. Ils ont été les premiers à financer un programme de recherche. C'est sûr que c'est plus intéressant parce que chez eux, il fait rarement très froid. Filippo Giustozzi, de l'Institut royal de technologie de Melbourne, RMIT, confirme l'avance australienne. Avec certains plastiques, le vieillissement de l'asphalte est même ralenti parce qu'ils agissent comme un écran solaire, ajoute M. Giustozzi, auteur du livre Plastic Waste for Sustainable Asphalt Roads, publié en 2022. En savoir plus, source Nature, 1,9 million de tonnes, quantité de plastique générée par le Canada chaque année. Source Ressources naturelles Canada, 30 millions de tonnes. Quantité d'asphalte produite au Canada chaque année. C'était « Du plastique dans l'asphalte », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 septembre 2024 dans la presse.
Les jeunes ont grandi avec leurs plantes. Un texte de Quentin Dufresne, paru le 2 septembre 2024 dans la presse. C'est entre les pieds de tomates et les plants de concombre d'une serre agricole située en plein centre-ville de Montréal qu'une poignée de jeunes adultes avec une déficience physique se retrouvent chaque semaine pour appréhender ensemble et à leur rythme le marché du travail. Ces jours de récolte ce mardi matin, en plein cœur de l'îlot voyageur. Une oasis de verdure, située en plein milieu des mastodontes de béton grisâtre, accueille pour la dernière fois de l'année ces jeunes et leurs intervenantes en réadaptation du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal pour ramasser les légumes qu'ils ont fait pousser tout l'été. Depuis mai 2024, ce groupe de 6 jeunes adultes déjà suivis en réadaptation participe à un projet du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal d'intégration sur le marché du travail en partenariat avec l'organisme de verdissement social Sentier Urbain. Au cours de 14 ateliers, ils ont été formés à la gestion d'une serre et de ses légumes sous la supervision d'un horticulteur. Avant de commencer, je ne connaissais pas le monde du travail et, au fil du temps, j'ai appris pas mal de choses comme la culture des légumes et les techniques de jardinage, explique Jihada Christophe. Jihada Christophe nous confie « Ça m'a apporté de la confiance en moi et envers les autres, mais aussi d'être attentive aux consignes, à la sécurité et d'être sociable ». Pour cette jeune femme de 23 ans, atteinte d'une déficience auditive, du langage et de la motricité, l'horticulture a aussi été un moyen de développer des habiletés tout en apprenant sur ce métier. J'ai appris sur les qualités nécessaires pour être dans l'horticulture et à mieux connaître mes forces et mes limitations, ajoute Jihada Christophe. Nouvelles aptitudes. Chaque semaine, ces jeunes horticulteurs en herbe ont la possibilité de ramener chez eux le fruit de leur récolte. Le reste s'en va sur les étals d'un marché local et à destination d'organismes du quartier. Heureuse de sa participation au projet, Lucia Carias Barahona a quant à elle déjà prévu de s'y réinscrire l'an prochain. Cette jeune femme de 20 ans, atteinte d'une hémiparésie et d'une déficience visuelle, se dit fière de ce qu'elle a pu accomplir entre les quatre murs de cette serre. « C'était vraiment stimulant, dit-elle. Ça m'a apporté un certain sentiment de fierté, de voir ce que je peux créer de mes propres mains. Ça m'a aussi donné un sentiment de sociabilité, car je ne me sentais plus toute seule. » En plus d'ajouter une ligne sur son curriculum vitae, l'expérience au sein de la serre lui a permis de travailler sur sa motricité. Ça m'a aidé à me rendre un peu plus flexible et à prendre de bonnes positions pour me pencher, explique Lucia Carias Barahona. Ça m'a permis de développer des capacités, comme de bien tenir le fruit quand on le cueille, mais aussi de savoir demander de l'aide. Au terme du projet, chacun des jeunes adultes repart avec une lettre de recommandation rédigée par l'horticulteur qui les a supervisés. Combler un trou de service. Pour la travailleuse sociale du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, Ève Dutille-Paquette, ce partenariat entre l'approche clinique et l'horticulture permet avant tout à ces jeunes de se faire une expérience de travail à un rythme qui leur est adapté. L'accès au milieu du travail est complexe pour eux, car c'est un rythme soutenu qui est stressant et il faut qu'il soit bon rapidement, explique Eve Dutille-Paquette. L'horticulture était une avenue intéressante, car c'est un métier qui offre des possibilités d'emploi et dans lequel le niveau de stress est beaucoup moins élevé pour ces jeunes adultes qui ont besoin de beaucoup de répétitions, de calme et de sérénité. Selon elle, le projet, qui s'inscrit dans le programme Transition de l'école à la vie active en déficience physique, TEVADP, vient répondre à une absence de service pour les jeunes adultes avec une déficience physique. Il y a vraiment un trou de service entre la pédiatrie et les jeunes adultes où il nous échappe, dit-elle. Ils se retrouvent à ne pas avoir les services dont ils ont besoin pour s'envoler et s'épanouir. Pour l'ergothérapeute Geneviève Lamy, ce projet permet également d'accompagner cette clientèle loin du cadre institutionnel qu'impose le milieu de la réadaptation. C'est quelque chose de tellement concret, car ils sont dedans et ils voient les choses pour vrai, dit-elle. Ce n'est pas comme quand on en parle de façon théorique dans nos bureaux. Là, on est vraiment dans la réalité et on l'essaie pour voir comment ça se passe. Des bienfaits évidents. Horticulteur de sentier urbain, Maquel Pereira est fier d'avoir enseigné à ses jeunes l'expérience de base pour travailler dans une serre. L'horticulture sociale ne se trouve pas beaucoup ailleurs, dit-il. Je trouve ça très valorisant de pouvoir accompagner des jeunes marginalisés dans un type d'apprentissage. C'est quelque chose qu'ils n'auraient pas pu avoir ailleurs. Au fil des mois, l'équipe clinique du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal a pu constater les bienfaits de cette expérience sur leurs jeunes adultes, que ce soit sur leurs habiletés à communiquer, à prendre des initiatives ou encore à avoir le comportement approprié face à un employeur. On a réalisé ici toute l'ampleur de ce que Sentier Urbain pouvait apporter à nos jeunes, explique le chef de programme TEVADP, Anthony Ayotte. Cet été, j'ai vraiment fait le constat que nos jeunes ont littéralement grandi en même temps que leurs plantes. C'était « Les jeunes ont grandi avec leurs plantes », un texte de Quentin Dufrane paru le 2 septembre 2024 dans la presse.